Humus, Mesh et compagnie, une proposition de Wilfried Kroze.
Alors, moi c'est Sylvain, je suis gaillacois depuis un certain nombre d'années et j'ai co-créé l'association Lumus. Lumus est une association qui est dans la mouvance du réseau des CREFAD, qui est une association nationale d'éducation populaire.
Moi, je m'appelle Étienne, je fais partie d'une association qui s'appelle La Mèche. On a créé avec quelques amis en 2018 à Marseille, et qui est aussi une association qui est assez proche du réseau des CREFAD. Et voilà, donc qui s'inscrit aussi dans un mouvement d'éducation populaire et qui principalement anime des formations, fait un peu de l'accompagnement de groupes, de collectifs, de la gestion de conflits aussi dans les collectifs.
Lorsque les personnes qui ont fondé Peuple et Culture descendent des plateaux du Vercors ou sortent des camps de concentration, ils sont héritiers d'une histoire, celle du siècle des Lumières et de la République française. Un désir les anime, l'accès au savoir et à la culture pour tous et toutes tout au long de la vie. Peuple et Culture développe des démarches d'éducation populaire, favorisant l'éducation critique, l'autonomie, l'ouverture culturelle et interculturelle, la transmission des savoirs, le goût de l'expression et de l'action collective, de la créativité et du vivre ensemble. C'est en tout cas ce qui est noté sur le site internet en septembre 2021 où nous enregistrons cette entrevue avec Sylvain et Étienne lors d'une formation autour de la compta en association, comme pour se donner des billes de compréhension d'une matière complexe mais ô combien vitale à cerner pour piloter nos désirs associatifs et faire les bons choix politiques. C'est donc dans cette constellation d'éducation populaire et politique que je vous propose de passer une petite heure.
Bah, les CREFAD, c'est un truc, c'est une sorte d'acronyme un peu barbare. Ça veut dire un truc comme centre de ressources, d'études et de formation à l'animation directe. C'est un réseau qui existe depuis plus de 20 ans et qui est issu d'un autre réseau, une fédération d'éducation populaire qui s'appelle Peuple et Culture, qui est née au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, et du coup qui ouais, après j'ai pas de grandes connaissances historiques là, mais voilà, qui notamment est porteuse d'une culture qui est la culture de l'entraînement mental.
Quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire ça remonte dans les années, 36, il y a eu ce grand événement de 36.
Joffre Dumazédier.
Qui fait que le Front Populaire a été au pouvoir. Il y avait tout un mouvement des auberges de la jeunesse laïque, où j'étais un militant fervent.
Vidéo réalisée par Peuple et Culture.
Qui chantait une culture plus proche de la nature. Alors on partait sac au dos le samedi avec des ouvriers. Moi j'étais étudiant à ce moment-là.
1998.
J'habitais dans la banlieue Est, la banlieue rouge. Donc il y avait les soirées, il fallait. J'essayais de faire comprendre ce que j'apprenais moi au lycée à des gens qui ne pouvaient pas y aller, hein, qui étaient mes copains de voisinage. Alors, bon, il y avait aussi dans les syndicats des collèges du travail. Il y avait tout un mouvement d'ensemble de formation de militants responsables à qui on donnait une formation capable de les faire discuter avec les cadres de l'entreprise. Alors dans ces deux cadres-là, moi j'étais présent en plus de mon travail d'étudiant à la Sorbonne, étudiant en lettres, et passionnément j'observais comment arriver à faire partager des problèmes plus complexes que les problèmes de la vie ordinaire à travers les auteurs littéraires, philosophiques ou scientifiques, quoi. Alors c'est là où je me suis concentré sur ces difficultés majeures que celui qui vit avec des mots ordinaires toute sa vie, chez lui, avec ses copains, dans la rue, au travail, il a beaucoup de mal à suivre des exposés qui ont des mots savants, scientifiques ou philosophiques. Et qu'il y avait donc un problème là, comment ouvrir au savoir savant, savoir spécialisé, les langues ordinaires, les réflexions ordinaires. Il y avait Alain René qui s'occupait de cinéma, il y avait Bazin qui s'occupait de critique cinéma, il y avait Marker, Chris Marker qui lui s'intéressait surtout au cinéma. Enfin, dès le début, la méthode éducative que Peuple et Culture cherchait à mettre au point, c'est une méthode qui ne sépare pas l'individualité de sa condition sociale et qui, en même temps que l'on favorise son auto-développement personnel, en même temps, on l'aide à fabriquer une espèce d'auto-protection sociale en créant des groupements protecteurs, des groupements d'initiatives, des groupements de lutte contre l'injustice, etc. Donc, disons un peu plus de ce temps libéré. Je rappelle simplement des chiffres qui en disent long, c'est pas au moment où Marx écrivait et au moment où Jules Ferry ou ses prédécesseurs de la Ligue de l'enseignement préparaient l'école, la durée du travail moyen était d'environ 3500 heures par an, sans soirée, on allait se coucher, sans week-end, hein, sans vacances, sans retraite payée, tout ça. L'éducation n'a pas changé fondamentalement depuis ce temps-là. Et notamment les responsables de l'éducation après Jules Ferry n'ont pas compris qu'il y avait une préparation nécessaire, une culture nécessaire pour que le temps libre soit un moyen de culture populaire, justement. Et qu'il fallait le préparer, pas seulement à la formation initiale, mais dans des formes nouvelles de formation continue. On n'a pas compris ça. Et ça continue, l'idiotie actuelle de nos politiques, et même de gauche. Donc, il s'agit d'une orientation, d'une action culturelle qui tente à viser l'individualité et aussi le milieu dans lequel il est. C'est ça, Peuple et Culture, qu'on a un peu oublié. Alors, je parle souvent d'autodéveloppement maintenant, plus que je le faisais il y a donc une cinquantaine d'années, parce que c'est vrai qu'à partir de... Quand on n'avait pas de temps à soi, social à soi, sans aucune légitimité sociale, sans temps social à soi, c'était de l'égoïsme. C'est fini ça maintenant. Le temps social à soi, c'est une forme de dignité de l'individualité qui travaille. Oui. Alors, on ne s'est pas rendu compte combien, dans ce temps de loisir qui est prépondérant maintenant, et qui est plus long que le temps de travail, attention, dans les budgets temps de 85 en France, hein, il faut s'y préparer, notamment préparer au choix. Vous êtes tenté par ça, bon, ça donne quoi et vous choisissez quoi. Il faut apprendre à choisir pendant 10 ans. Mais c'est pas ce qu'on fait à l'école alors. L'éducation populaire compense un petit peu pour les volontaires qui veulent bien y aller, mais la masse des élèves y échappe. Il faut donc que cette exigence pénètre aussi la formation que tu appelais formelle, tu vois. La formation scolaire obligatoire, moi je suis pas du tout pour la supprimer. Comme les gens d'extrême droite ont tendance à le faire parce que ça coûtera moins cher et qu'ils font plus facilement leur manigance, vous voyez. Non, mais je serais pour ces 10 années maintenant qui imposées à tous, mais à condition de changer le contenu et qu'il reflète les différentes situations de travail professionnel, travail familial et puis de temps libéré, y compris temps de loisirs, que soit à la base du programme pendant 10 ans, pour apprendre à réfléchir mieux à la vie quotidienne, pour apprendre à faire du temps libéré un mode d'auto-développement de la connaissance, de la compétence, de l'esthétique, de l'éthique, etc. Voilà. C'est ça le fond de la question, et pour moi, le sens profond de l'éducation populaire, de notre vocation, c'est d'agir quand le travail est fini et qu'on a à gérer sa vie en dehors du travail. C'est ça l'essentiel du champ de l'éducation populaire. Alors l'éducation populaire aussi, je te le disais tout à l'heure, est-ce que c'est une bonne expression? Alors malheureusement, je pense que non, mais je la défends quand même, parce qu'il y a un mouvement, mais c'est pas bon, parce qu'elle est restée figée telle qu'elle était il y a 100 ans, au fond. Hein, où il y avait un nouveau rapport entre l'institution éducative et puis le sujet apprenant. Maintenant, ce lien n'est plus le même. Avant, ce sujet apprenant, enfant mais adolescent aussi, acceptait les contenus d'un enseignement qu'on lui donnait. Si ce n'était pas à l'école, c'était dans des associations. Or, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. La grande enquête qu'a fait Martine Barthélemy sur l'évolution de l'association depuis 10 ans et qui a abouti à 2 volumes tout à fait capital pour vous, montre que la plupart du travail de formation dans les associations, au lieu de partir d'un idéal démocratique inculqué, elle reprend la formule des héritiers, je l'aurais pas repris, mais enfin, c'est tout à fait légitime, au lieu d'être ça, maintenant, elle observe que de plus en plus, ce sont les membres d'associations qui cherchent à développer leurs ressources personnelles, leurs ressources sociales. Et les formations tentent à être centrées sur les sujets eux-mêmes. Elle a observé ça partout, et d'ailleurs à PEC aussi, ça s'est montré. Ça. Et c'est important à savoir tout ça. Parce que je n'aurais, si j'étais doué d'une puissance quelconque, j'abandonnerais l'expression éducation populaire pour la remplacer par une autre, comme par exemple le développement des pratiques d'auto-formation permanente pour tous, hein, et avec une aide dans les relations sociales au cours de la vie, entre ceux qui en savent plus et ceux qui en savent moins, hein, et entre les ingénieurs, les médecins et puis la population ouvrière employée, hein, et avec un apprentissage aux pratiques d'auto-formation dès l'école primaire, pendant 10 ans.
Moi, je suis arrivé dans le réseau des CREFAD par un cursus qui propose, qui s'appelle le séminaire itinérant acteurs et entrepreneurs sociaux, et qui est un cursus qui propose à des personnes qui n'ont pas étudié les sciences sociales, qui ne sont pas allées à la fac, de faire une recherche action sur un thème qui leur est propre. Et j'ai fait ça avec le réseau des CREFAD, c'est comme ça que je suis rentré dans le réseau. Donc j'ai fait une recherche pendant 3 ans.
Et action, du coup, alors c'est quoi recherche action? C'est que t'es pas que dans des bibliothèques, le nez dans des bouquins?
Voilà, donc c'est une recherche qui s'appuie... c'est une recherche de terrain qui s'appuie sur l'expérience du chercheur. L'idée, c'est qu'en tant que chercheur, j'assume aussi que je suis un acteur de terrain. Et donc, je me situe en tant qu'acteur de terrain. Et ce qui permet de situer ma recherche dans son contexte réel et de m'appuyer sur mes savoirs chauds, sur mon expérience personnelle et mon expérience de terrain pour mener la recherche.
Est-ce que ça veut dire que on démystifie l'objectivité du chercheur ?
Oui, je dirais un peu, ouais. Oui, c'est plutôt ça. C'est vrai que dans une recherche plus classique en sciences sociales, on va plutôt avoir un chercheur qui est détaché du terrain qu'il étudie. Non, on assume complètement d'être partie prenante en fait dans ce terrain-là et du coup d'avoir un vécu spécifique, une subjectivité à l'œuvre. Et en fait, on va essayer de prendre en compte et de travailler avec cette subjectivité-là aussi.
L'éducation populaire a un problème.
Anthony Poulikan.
C'est son nom. Parce qu'effectivement, quand on parle d'éducation populaire, on entend...
Vidéo réalisée dans le cadre du festival Parole de résistance citoyenne organisée.
Potentiellement, éducation du peuple.
Charente.
Or, l'éducation populaire n'est pas l'éducation du peuple. Hein. C'est même deux choses extrêmement différentes, philosophiquement presque antagonistes.
Hein. Juin 2017.
L'éducation populaire, en fait, il faut l'entendre comme une éducation dont la forme est populaire. C'est-à-dire qu'il travaille les conditions permanentes pour permettre aux individus de s'éduquer ensemble. Que donc le travail de l'éducation populaire va en quelque sorte consister à socialiser tout cet ensemble de cultures. Alors ça consiste à quoi? Ça consiste en gros à réunir des gens. Pour moi, ça serait ça une action d'éducation populaire, à réunir des gens, à les amener à se raconter, à se faire les conteurs ou les conteuses de leur propre histoire, on pourrait presque dire, hein, et ensuite à élaborer à partir de leurs expériences de vie un savoir collectif, hein, un savoir collectif qui va être utile pour l'action et à en rendre compte à travers un objet culturel qui peut être du théâtre, qui peut être du film documentaire, qui peut être tout objet culturel qu'on a à notre disposition. C'est très classe de citer Paulo Freire, qui est un pédagogue brésilien, qui disait « Personne n'éduque personne ». Personne ne s'éduque seul, les individus s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. C'est presque une définition de l'éducation populaire, s'éduquer ensemble par l'intermédiaire du monde, c'est-à-dire reconnaître qu'on est tous porteurs de culture, tous autant qu'on est.
On m'a dit, putain Kawa, faut pas d'histoire.
Faut pas ton dieu.
Alors du coup je casse d'être ce trac au vrai contre-pouvoir.
Merci à la police, aux gendarmes.
Yeah. Éteins ta télé, lis un livre,
j'ai bien voulu qu'on débatte.
Soutiens les esprits libres, yeah. Snowden, Assange, hey, Wikileaks,
hey, Stéphane Hessel,
c'est longtemps affronté. Charlie Hebdo, Bradley Manning,
on est souvent du même côté.
Rémi Garnier, Anonymous, les prisonniers politiques du monde entier. Depuis l'Antiquité, tu sais, rien n'a vraiment changé. On assassine toujours les messagers.
Le savoir est une arme.
Le savoir est une arme d'instruction massive, y'a pas que les photos de charme. L'intromission raciste, nettoyer l'argent sale, les petits sachets de lessive. Y'a le savoir qui est une arme, car son mot d'emploi dans les livres. Parlant du fond du cœur, de la vérité vraie du monde, depuis toujours c'est les vainqueurs qui violent et qui fécondent. Pour dire on a baisé vos femmes, on est les leaders génétiques. La domination animale, ce vieil instinct archaïque. Tous les assassins de la guerre sont des héros s'ils gagnent la guerre. Nagasaki, Hiroshima, tandis les manuels scolaires. Les lance-pierres de Palestine qui sont punis par des missiles. Un blessé pour 200 morts dans l'expédition punitive. Le terrorisme est inactif, selon le sens des bombes. Ils envahissent le tiers-monde lorsqu'il y a deux buildings qui tombent. Les collabos, les colonies et le code noir. Souviens-toi que c'est les vainqueurs qui rédigent les livres d'histoire. Le savoir est une arme d'instruction massive. Y'a pas que les photos de charme, l'intromission raciste. Nettoyer l'argent sale, les petits sachets de lessive. Y'a le savoir qui est une arme, car son mot d'emploi dans les livres. Mais pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Faut-il vraiment choisir un camp entre Youssef et Joseph? Tout vainqueur, insolent, à sa perte de travail. Prenez garde d'être modeste après le gain d'une bataille. Car parfois le futur, au passé joue des tours. Nos actuelles préfectures sont nos anciennes commandantours. On y soit la guerre et les teubés qui la pratiquent. On voit jamais qu'on tue des frères quand on joue à Battlefield 8. On fait la fête, on redécore pour des causes vite oubliées. Mais rappelez-vous que les morts n'apprécient pas le jubilé. Population mondiale, prenez bien garde à vous. Sous peine de voir votre liberté, le crâne rasé à genoux. Le savoir est une arme d'instruction massive. Y'a pas que les photos de charme, l'intromission raciste. Nettoyer l'argent sale, les petits sachets de lessive. Y'a le savoir qui est une arme, car son mot d'emploi dans les livres.
Le savoir est une arme. Le savoir est une arme.
Parce que t'as servi en kaki, mais t'es toujours à deux doigts d'être oublié comme un harki. L'histoire n'en dit plus rien, mais le pont de Paris s'en souvient. De la main d'Ossarès, ici on noie les Algériens. Y'a au moins toujours deux versions à l'histoire. Pour une histoire de mélanine, on excusait la traite des noirs. Mémoire d'humanité pour que tu te sentes terrien. Alors pourquoi on dit plus rien d'unité 731? On parle de frappe chirurgicale, de guerre éclair pour des carnages. Au paysage obscur et clair comme une peinture de Caravage. Il faut décrypter les messages, les garder enfouis en nous. Car y'a longtemps que le rôle de sage et dangereux parmi les fous. Le savoir est une arme d'instruction massive. Y'a pas que les photos de charme, l'intromission raciste. Nettoyer l'argent sale, les petits sachets de lessive. Y'a le savoir qui est une arme, car son mot d'emploi dans les livres.
Attends. Je veux dire que la bien-pensance que l'État nous impose repose sur tous ces mecs impliqués dans des scandales Floss, Sarko, Eric Woerth, Valls, Tapie, Mitterrand, Rachida Dati, Tiberi, DSK, Guérini et Santini, Pasqua, Harlem, Désir, Dassault, Cahuzac. Et la liste est infinie dans la corruption de l'État tape. Élu justiciable, je vous dis à le Wikipédia. Ils ont revendu leurs âmes comme des coups de gras. Je me sens insulté quand Hollande prend Netanyahou dans ses bras. On traite de terroriste celui qui refuse la colonie et d'anarchiste celui qui refuse la guerre pour l'économie.
Et toi, t'arrives avec ton écologie là. Attends, on n'est pas dans un état de droit, mais là où les états les plus forts ont tous les droits.
Les puces, les caméras.
Le savoir est une arme d'instruction massive. Y'a pas que les photos de charme. L'intromission raciste, nettoyer l'argent sale. Les petits sachets de lessive. Y'a le savoir qui est une arme, car son mode d'emploi dans les livres. Le savoir est une arme d'instruction massive. Y'a pas que les photos de charme. L'intromission raciste, nettoyer l'argent sale. Les petits sachets de lessive. Y'a le savoir qui est une arme, car son mode d'emploi dans les livres. Le savoir est une arme d'instruction massive. Le savoir est une arme d'instruction massive. Le savoir est une arme d'instruction massive. Le savoir est une arme d'instruction massive.
Alors si je vous dis, alors de mémoire, hein, peut-être vous me corrigerez si vous, je pense que vous la connaissez. Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul. Les êtres humains s'éduquent par l'intermédiaire du monde.
Ouais, Paulo
Freire. Quelque chose, ouais.
Il me semble.
Alors ça, on parle d'éducation populaire et tout ça. Est-ce que c'est une des définitions qu'on pourrait attribuer à l'éducation populaire?
Oui. Oui, oui, je pense que c'est, on pourrait dire que ça pourrait être un credo, comme on dit, je pense, de l'éducation populaire. Oui, on a d'autres, comme voilà, ce serait dire que c'est l'éducation du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc oui, dans l'éducation populaire, ouais, il y a un petit peu cette idée là de aussi. Remettre un petit peu en cause la distance entre l'élève et le maître et de se dire les choses vont dans les deux sens, l'élève est aussi maître et le maître est aussi élève, quoi. Quelque chose un peu du style.
Et on y arrive sur le réel ou pas? Dans vos expériences respectives, est-ce que...
Ah oui, absolument. Bon, pour moi, l'éducation populaire, c'est aussi de donner de la place justement aux expériences individuelles de chacun chacune et aux expériences collectives, mais en tout cas aux expériences, et donc de démystifier les savoirs conceptuels et théoriques dénués, du moins qui sont trop hors sol. C'est-à-dire que les savoirs conceptuels, ils sont super importants, mais pas plus que les expériences. On a besoin des deux. Donc pour moi, l'éducation populaire, c'est pouvoir faire du lien entre les concepts et puis son vécu, ses expériences, ses ressentis, et même on peut descendre jusque dans le corps, parce que c'est dans le corps que se vivent les émotions, que se vivent les ressentis, et ça conditionne nos façons de penser, d'agir, etc.
Vous êtes toujours à l'écoute d'une entrevue avec Sylvaine de l'association Lumus et Étienne de l'association La Mèche. Une entrevue enregistrée en septembre 2021.
Dans la recherche, objectivement, on rend le subjectif... objectif dans le sens où on dit c'est un fait, je vis ça et ça c'est un fait, c'est ce que je vis. Quand j'explique mon histoire, mon vécu, mes expériences, ça permet aux personnes qui vont lire ma recherche de savoir d'où je parle et de remettre en question ça. Donc c'est là que je me différencie du savoir qui se veut universel. Je dis ça c'est ma vérité et je l'assume comme étant ma vérité et qu'il y a une petite contribution à la vérité collective. dans les missions de l'Humus qui me tiennent particulièrement à cœur, il y a l'idée de casser le mythe de la neutralité, parce que voilà, la neutralité, peut-être ça peut exister dans un cadre bien défini, comme quand en chimie on parle du pH, si le pH il est à 7, il est neutre, bon ça d'accord, mais dans les sciences sociales, dans le monde des idées, des pensées, de la politique, la neutralité c'est un mythe, ça n'existe pas. C'est de toute façon, on a de toute façon un positionnement, et il peut être inconscient, Et en général, quand on se dit neutre, c'est qu'on est en plein dans la norme sociale. Donc, notre différence, elle est invisible par rapport à ce qui nous entoure. Mais on n'est pas neutre. La neutralité n'existe pas dans les sciences sociales.
Là, on se rencontre autour d'une formation sur qui s'intitule le kit de survie comptable. Est-ce que justement ça c'est un des outils ou comme d'autres qu'on pourra citer peut-être de se réapproprier au moins dans le milieu associatif des armes pour mener à bien les actions qu'on s'est données dans les statuts des différentes associations? Et est-ce qu'on peut citer d'autres outils qu'il faudrait un peu retravailler dans le milieu associatif ou peut-être même chez les gens tout court?
C'est difficile de parler de manière hyper générale. C'est sûr que la comptabilité et la gestion, bon, c'est un ensemble de techniques, de méthodes, c'est un peu un domaine, c'est une manière aussi de regarder le réel, en fait, d'essayer de le traduire et de l'interpréter et de faire des plans un peu dans le futur aussi. Et du coup, oui, c'est sûr que c'est intéressant de se former un petit peu sur ces questions-là. Et c'est vrai que, bon, là peut-être je vais parler plus en généralité, mais qu'on pourrait se dire que dans le milieu associatif en France, bon, il y a beaucoup d'associations, il y a aussi beaucoup de gens qui essayent de développer un certain nombre d'actions en passant par un modèle associatif, et que on pourrait peut-être, c'est un peu généraliste, mais se dire que voilà, il y a le monde de l'entreprise et le monde des associations, et que le monde de l'entreprise est clairement sûrement avec des gens plus formés sur ces questions-là, et que ça leur permet peut-être plus facilement de prendre des parts de marché,
de dominer
aussi la société par son mode de fonctionnement. Et donc, c'est vrai que l'association, c'est pas juste un format juridique, c'est quelque chose qui porte une histoire, qui vient d'une histoire plus longue, qui s'origine aussi dans les luttes sociales du 19e siècle. À ce sujet, il y a un très bon livre de Michel Rio-Sarcé sur la liberté. J'ai plus là le titre exact, mais qui parle notamment du mouvement associationniste comme un mouvement proche du mouvement coopérativiste. Ou d'autres qui sont notamment développés au 19e siècle et qui portent une autre vision de la société ou de comment les êtres humains pourraient s'organiser pour fonctionner ensemble, pour subvenir à leurs besoins, etc. Donc voilà, et c'est vrai que la petite entrée par la comptabilité, c'est une des manières aussi, voilà, c'est une des entrées qui est peut-être aussi importante pour essayer d'asseoir avec peut-être un peu plus de pérennité les aventures associatives.
Le passé pour moi, pas simplement pour moi, mais est définitivement passé. On ne peut pas refaire l'histoire.
Et Michel Rio-Sarcé.
Les événements non advenus,
France Culture,
n'ont de sens que parce qu'ils sont constamment revécus dans le présent.
Avril 2016.
Et donc, je voulais comprendre comment le processus pouvait se penser. Et il m'a fallu à la fois travailler sur cette mémoire souterraine parce que les moments non advenus perdurent dans les mémoires et en même temps savoir comment ils avaient été occultés. C'est-à-dire, j'ai travaillé en trois temps, à la fois sur cette pensée souterraine et par ailleurs sur la fabrique de l'histoire. Désolé.
Mais ça, vous l'avez souvent utilisé cette expression dans votre livre.
C'est la fabrique de l'histoire, mais pas la fabrique de l'histoire par les historiens, la fabrique de l'histoire par les contemporains. Mm-hmm. La façon dont, immédiatement après l'événement, les contemporains se sentent obligés, et les autorités en particulier, se sentent obligés de interpréter à leur manière pour essayer de étouffer en quelque sorte ces possibles qui, de toute façon, n'adviendront pas.
Alors ces possibles, ils ont été étouffés par différentes visions et des visions de l'histoire, expliquez-vous. Ils ont pu être étouffés par Karl Marx et un certain marxisme, vous le montrez de façon très remarquable. Ils ont été étouffés aussi par les classes dominantes, dites-vous, du 19e siècle, et en particulier sous la période donc de Napoléon III, par des Saint-Simoniens, qui étaient pourtant de ceux qui avaient espéré des possibles, mais qui, d'une certaine façon, ont vu dans le règne de Napoléon III la possibilité d'appliquer certaines de leurs idées sur l'industrie. Et au bout du compte, eh bien, effectivement, ils ont ressurgi de temps en temps, sous la Commune, bien évidemment. Mais c'est possible, c'était quoi exactement pour vous, Michel Rio-Sarcé?
Eh bien, c'était le titre de mon livre, ça correspond au titre de mon livre, La Liberté, J'ai découvert le sens de la liberté à travers les textes, à travers les pétitions, à travers les manifestes de 1830 et de 1848. Qu'est-ce que la liberté ?
Mais pas la liberté des libéraux ou du libéralisme économique.
C'est la liberté individuelle qui ne peut être pensée qu'en collaboration avec la liberté collective. Et la liberté a été définie de manière un peu précise, parce que c'était un grand intellectuel, Pierre Leroux. La liberté, c'est le pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir pleinement, souverainement, dans tous les domaines, politiquement, intellectuellement et moralement, puisque la question de la morale est très très importante à ce moment-là, mais une morale qui est de l'ordre de l'éthique, hein, aujourd'hui on dirait. Et cette définition, c'est pas simplement une définition, c'est que les individus, les ouvriers, les démunis en quelque sorte, essayent de la mettre en œuvre pratiquement immédiatement, dès l'instant où ils ont la possibilité de s'exprimer.
Oui, mais on leur demande de patienter. Et là, les forces révolutionnaires d'un côté, un certain type de forces révolutionnaires, mais comme le gouvernement ou les forces qui sont à la tête des régimes du 19e siècle leur disent « ça n'est pas pour tout de suite, patientez ». C'est cela, et c'est sur cette idée de patienter ou au contraire d'agir tout de suite que vous travaillez, Michel Rieux.
Exactement, c'est-à-dire que ce qui m'a intéressé, je travaille beaucoup sur le saint-simonisme depuis très très longtemps. J'ai mes amis saint-simoniens avec qui d'ailleurs nous travaillons en ce moment sur un projet relativement important sur le saint-simonisme. Donc là encore, je ne travaille pas toute seule et je me suis rendu compte que la possibilité qu'avaient offert les saint-simoniens dans les années 30 sur la liberté était absolument ouverte et fabuleuse d'une certaine manière, eh bien cette possibilité était elle-même entravée par la force des choses, et c'est un des saint-simoniens les plus importants, Michel Chevalier, qui a essayé de montrer la pertinence de la philosophie du progrès, la pertinence de la force des choses, et en demandant, sous le Second Empire, aux ouvriers de patienter, en disant que cette association Capital-Travail permettrait d'aller dans une situation bien meilleure qu'elle ne l'était. Et cette philosophie du progrès, lorsqu'on la rapporte au tout début de son existence, d'une certaine manière, on s'aperçoit que bon nombre de personnes, plus ou moins lettrées, plus ou moins intervenant dans l'espace public, étaient relativement réticents sur la philosophie du progrès. Et le premier d'entre eux, bien sûr, Charles Fourier, expliquait que cette philosophie du progrès, ce progrès n'avait de sens que s'il n'y avait absolument pas de possibilité de faire perdurer l'exploitation de l'homme par l'homme. Il n'y avait aucune compatibilité entre progrès et exploitation de l'homme par l'homme. La rupture dans l'histoire, s'il y a une rupture en France en particulier, c'est 89, donc la Révolution. Et la Révolution a donné la possibilité à tous et à chacune de se penser libre, réellement ou potentiellement.
Comme individu.
Comme individu. Et ça, personne n'a jamais pu remettre ça en cause. Alors, cette liberté, il fallait savoir quelle forme elle allait prendre. Une liberté politique, une liberté sociale. Et les ouvriers, comme n'importe quelle personne, ont imaginé justement cette liberté en acte. Et ce qui se comprend parfaitement, c'est parfaitement rationnel. Et cette liberté en acte voulait dire avoir la maîtrise de son propre travail. Et il suffit de regarder de près la façon dont la grève et l'insurrection des Canuts s'est déroulée pour comprendre qu'est-ce que ça pouvait signifier. Beaucoup d'entre nous, que ce soit Thomas Boucher ou bien d'autres encore, ont essayé de travailler sur cette question du sens de cette liberté à cette époque-là. Et donc, on a souvent dit que les Canuts, par exemple, étaient, Ludovic Frobert l'a montré, etc., étaient... apolitique, mais c'est pas du tout. Ils voulaient être maîtres de leur propre travail. Mmh. Et cette liberté en acte, eh bien, le sens est donné précisément dans les mêmes années, en 1831.
Les Canuts, dont le journal s'intitulait « L'écho de la fabrique ».
L'humus, c'est tout jeune. Sylvain, tu peux nous parler un peu de... Alors, on en parle d'un peu de ce que tu veux, ce que tu voudrais y insuffler avec d'autres. La mèche, je crois qu'elle est plus ancienne. Non,
2018, ouais.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les années qui viennent, justement, si on imagine un petit peu l'histoire du futur, on fait un petit peu de prospective. Pour l'humus, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'humus?
L'humus, de permettre à beaucoup de gens de porter des projets et à encore plus de gens d'en profiter, donc des projets... émancipateur, puisque l'humus, ça a une dimension politique transformation sociale, et en même temps ça se veut vraiment partir des gens, du vécu, des émotions, et donc on va beaucoup travailler sur les questions d'émotions, même des ateliers par exemple de gymnastique sensorielle qui vont commencer le mois prochain. Et donc ça part du corps et ça va jusqu'à la transformation sociale. Et donc pour l'instant, y a des projets qui sont en train de naître au sein de l'Humus. Je ne sais pas lesquels vont arriver à terme, et j'espère qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Donc l'Humus est un bébé. En tout cas, l'idée de l'Humus, parce que donc l'Humus c'est de la terre végétale, donc c'est les feuilles mortes qui tombe, qui se transforme en terreau fertile pour les graines qui vont germer. Et c'est un peu ça l'idée, c'est de partir de ce qu'on est vraiment, de ce que la société d'aujourd'hui a fait de nous. Donc on n'essaye pas d'aller directement à des idéaux qui seraient déconnectés, qui seraient un peu hors sol. On essaye de partir vraiment de ce qu'on est, de nos réalités, pour transformer ça et pour aller vers les idéaux.
La mèche, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter qu'elle allume?
Pas mal de petites bombes, ouais, ça peut être pas mal. Non, je trouve que je rebondis en même temps sur ce que tu disais aussi, Sylvain, sur cette idée que... J'aime bien cette image des feuilles mortes, et c'est se dire aussi partir des fragilités, ou des choses qui ont pu faire souffrance, les choses qui sont un peu mortes, et en fait en faire aussi un terreau fertile. Et c'est vrai que nous, on travaille aussi pas mal là-dessus. C'est vrai, ces dernières années, on s'est quand même vachement plus orienté à faire de la gestion de conflits dans les collectifs, à essayer de faire en sorte que... Enfin oui, d'accompagner les gens un peu dans de travailler sur les conflits qu'il y a entre eux. Donc c'est certes venir un peu allumer des bombes, faire ça, parce que ça demande de parler des choses qui font mal. Peut-être que c'est un peu comme l'image du feu, qui est le feu qui brûle la forêt, permet derrière de créer un humus justement aussi assez fertile. Avec les peu de connaissances que j'ai là-dessus, je crois que c'est un peu ça.
Il réveille la dormance de certaines graines.
Ouais, voilà aussi quoi. Donc c'est sans dire qu'on vient pour faire table rase, c'est pas non plus ça, mais voilà. En tout cas, oui, c'est peut-être pour nous de progresser un peu dans ces domaines-là, et voilà, c'est déjà pas mal, quoi.
Ben merci à tous les deux.
Merci à toi.
Merci.
Merci à Sylvaine de l'association L'Humus et Étienne de l'association La Mèche. Merci à Laure de l'association CREFADA, le centre de recherche d'études et de formation à l'animation, au développement et à l'autonomie, à retrouver sur le site internet crefada.org. Merci au réseau des CREFAD, centre de recherche d'études et de formation à l'animation et au développement, coordination nationale de 16 associations qui œuvrent en réseau pour construire et agir ensemble et avec d'autres, à retrouver sur internet réseaucrefad.org. Comme quoi, même l'éducation populaire n'échappe pas au repli élitiste des jargons. Bref, il y a encore pas mal de boulot pour sortir l'éducation populaire de la marge. Merci à Geoffre Dumazédier, dont on peut retrouver la vidéo de 1998 réalisée par Peuple et Culture sur YouTube, sur le compte Union Peuple et Culture. Merci à Anthony Pouliken, qu'on peut retrouver sur le site de l'Ardeur, www.ardeur.net. Merci à Michel Riosarcé et son bouquin « Le procès de la liberté, une histoire souterraine du 19e siècle en France » paru en 2016 aux éditions La Découverte. Merci d'ailleurs à France Culture et à l'émission La Fabrique de l'Histoire. Pour la musique, merci à Colline et Dozkawa. Retrouvez pas mal de choses autour de l'histoire de l'éducation populaire sur le site de Peuple et Culture, www.peuple-et-culture.org. À voir aussi sur YouTube la vidéo intitulée « Les conférences gesticulées, quand l'éducation populaire réinvestit la culture ». Et bien sûr, l'éducation populaire un peu plus concrète, un peu moins jargonnante, on peut en faire tous les jours en se questionnant, en faisant un pas de côté, en faisant de la radio associative, des débats mouvants, des porteurs de parole, des visites chez les paysans, des ateliers de désintoxication de la langue de bois, des ateliers constituants, des après-midi arguments, et j'en passe. Réinvestissez les lieux d'éducation populaire, ne les laissez pas devenir des lieux d'animation socio-culturelle. Alicia Splat.